France Culture, il est 12h31. Et c'est votre journal, Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Abandonner ou non le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre doit annoncer dans les minutes qui viennent la décision du gouvernement, quelle qu'elle soit. Une opération d'évacuation du site se profilerait, avec en tout cas l'arrivée de renforts, de gendarmes et de CRS sur place. Précision de Véronique Rebérot, analyse politique de Stéphane Robert. On sera en ligne également avec Jean-Marc Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne, ancien chef du RAID. Le Parlement de Catalogne siège pour la première fois ce matin depuis sa tentative de rupture avec l'Espagne. Les deux principales listes séparatistes avaient affiché leur intention d'investir Carles Puigdemont, toujours en exil à Bruxelles, précision avec Marie-Pierre Véraud. Deux jours avant l'ouverture des états généraux de la bioéthique, un collectif d'une centaine de personnalités réclame, dans une tribune qui est publiée sur le site du Monde, une réforme urgente de ces lois de bioéthique concernant la gestation pour autrui, dossier suivi par Mélanie Juvet. Et puis le CSA est réuni depuis ce matin pour décider ou non du maintien de Mathieu Gallet à la tête de Radio France, deux jours après sa condamnation à un an de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende pour favoritisme quand il dirigeait l'INA. Commentaire et suivi d'Éric Chavroux. Dernière partie de la grande table, donc Olivier Gesbert.
Le cinéma dans l'histoire, qu'est-ce que la démarche de Claude Lanzmann de collecte des témoignages de rescapés de la Shoah a changé? On va en parler avec nos invités, l'historien Pierre Nora et le cinéaste Arnaud Desplechin après l'émission.
Alors qu'une opération d'évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes se profile, en tout cas il y a l'arrivée en Loire-Atlantique très remarquée depuis ces dernières heures de renforts de gendarmes et de CRS, l'exécutif se prononce donc, doit se prononcer dans quelques minutes, sans doute maintenant puisqu'on voit que le Premier ministre est en train de s'installer pour faire cette annonce, sur l'abandon du projet dans cette zone. Comme l'envisageaient les médiateurs dans leur rapport remis le 13 décembre, le gouvernement pourrait, devrait très vraisemblablement, mais il n'y a plus que quelques minutes à attendre, pourrait donc choisir d'aménager plutôt l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Antoine.
C'est une décision qui sera annoncée donc sous peu par le Premier ministre, à l'issue du Conseil des ministres, et les conditions de cette annonce ont été, quoi qu'il arrive, très soigneusement préparées.
Oui, soigneusement préparées, parce que Édouard Philippe sera entouré de 5 ministres, hein, c'est ce qu'on nous a dit ce matin, Nicolas Hulot, Gérard Collomb, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, Elisabeth Borne, ministre des Transports, ainsi que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Mais au-delà de ça, c'est l'ensemble du processus de décision qui a été soigneusement préparé, avec déjà la commande de ce rapport d'experts dont les conclusions au mois de décembre ont pointé les avantages et les inconvénients des deux possibilités qui s'offraient à l'exécutif. Et en fait, ce rapport a surtout permis de replacer la solution d'un réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique comme une alternative crédible, comme un choix possible. Ensuite, il y a eu ce message asséné auprès des journalistes: préparez-vous, ce sera avant la fin du mois de janvier. Enfin, depuis hier, l'envoi des CRS sur place pour préparer l'évacuation. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'il s'agit de ne pas faire d'erreur sur un dossier extrêmement sensible politiquement. La zone est occupée depuis 2009, depuis bientôt 10 ans. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'avaient réussi à résoudre un problème qui s'est enkysté au fil des années. Il s'agit donc pour Emmanuel Macron de montrer qu'il fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Et ça, en ménageant à la fois la gauche environnementaliste et la droite sécuritaire. C'est pourquoi il est fort probable que la décision sera l'abandon du projet à Notre-Dame-des-Landes, parce qu'en faisant cela, l'exécutif nous fait de l'entre-deux, du en même temps, c'est très habile. D'un côté, on abandonne le projet, un point pour Nicolas Hulot, très apprécié à gauche et chez les écologistes. Ça enlève toute légitimité au maintien des zadistes sur la zone. S'il n'y a plus de projet aux yeux de l'opinion, qu'est-ce qu'ils défendent? Plus rien. Ce qui permet de procéder à l'évacuation en faisant valoir que le gouvernement rétablit l'état de droit. Un point pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, très apprécié, lui, à droite. Et du coup, l'argument qu'on commence à entendre chez les Républicains, selon lequel Emmanuel Macron céderait face aux zadistes, aura bien du mal à accrocher dans l'opinion. Si tout se passe comme prévu, Emmanuel Macron aura vraisemblablement marqué des points politiquement.
Stéphane Robert, merci beaucoup. On attend donc cette décision dans les minutes qui viennent. On va aller à Notre-Dame-des-Landes tout de suite retrouver Véronique Rebérot. Bonjour. Véronique, voilà, ah ben là on vous entend, on entend le bruit de fond, merci. Dans quel état d'esprit attend-on cette décision? Dans quel climat?
Alors on est dans une vraie situation d'attente effectivement, même si on vit, vous l'avez dit, les toutes dernières minutes de cette longue, longue, très longue attente. L'effervescence est surtout là où je me trouve à Notre-Dame-des-Landes, au local des opposants, elle est journalistique. On se défend de vendre ici la peau de Notre-Dame-des-Landes avant que le gouvernement ait annoncé sa mort et aussi les conditions de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes si abandon devrait y avoir. Julien Durand, qui se trouve ici au local des opposants, se refuse à tout pronostic. Il s'inquiète de la parole répétée, effectivement, vous l'avez dit, réaffirmée du gouvernement, du président Macron, d'évacuer la zone, quelle que soit la décision. 6 compagnies de CRS à la Rennes, 7 compagnies de gendarmes, 1200 hommes en tout seraient positionnés. Invisible hein, ici pour l'instant, mais mettant une pression certaine sur les zadistes qui ne savent pas sur quel pied danser au moment donc où je vous ai prévu les zadistes de s'exprimer deux heures, d'une seule voix. Deux heures après l'annonce officielle du gouvernement, ce sera au lieu dit la vacherie, au lieu de la lutte. Résistance, une fête y est prévue aussi ce soir si le projet est abandonné.
Pardon pour les quelques coupures. Encore une petite question, est-ce qu'on s'attend sur place à cette évacuation, quelle que soit la décision, puisque de toute façon, effectivement, le gouvernement souhaite que la zone soit évacuée.
Alors si le projet d'aéroport, effectivement, est maintenu à Notre-Dame-des-Landes, l'État n'aura d'autres choix de déloger les zadistes. Ils s'y attendent, ils sont déterminés à rester avec le risque. Sûr que ça tourne mal. Si le projet est abandonné, le mouvement d'opposition espère pouvoir éviter vraiment cette évacuation. Pour cela, les associations opposées au projet demandent un peu de temps encore. Des discussions sont en cours et sont en cours en ce moment et depuis plusieurs jours en interne pour évacuer, si possible, à l'amiable et dès que possible, la fameuse route des chicanes. Elle est très symbolique, cette route, la D281. Elle est fermée depuis 2012 par arrêté préfectoral parce que tenue pour faire vite par les éléments les plus radicaux de ce mouvement de lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Rentre demain, assez vite en tout cas, route libre de circulation, ouverte à tous et en priorité, bien sûr, aux villages alentours, serait un gage d'apaisement, de volonté très symbolique, bien sûr. Ça prouverait que les zadistes sont rentrés, on va dire, d'une posture de lutte, de résistance à une phase de construction main dans la main avec l'État pour construire ici un autre projet, un projet de territoire qui reste encore à inventer, peut-être de type Larzac. Une évacuation, en tout cas, par les forces de l'ordre de cette route des chicanes ou plus largement de la ZAD ne ferait que relancer une résistance non constructive.
Voilà, merci beaucoup Véronique Rebert, votre résistance aussi un peu de cette ligne, mais enfin je crois qu'on a écouté et entendu l'essentiel de ce que vous aviez à nous dire depuis le site donc de Notre-Dame-des-Landes. On est en ligne avec Jean-Marc Fauvergue qui est député La République En Marche de Seine-et-Marne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ancien chef du RAID, c'est aussi pour ça qu'on aimerait bien vous entendre sur la suite des événements. D'abord, est-ce que vous pensez qu'une opération se prépare véritablement d'évacuation ou est-ce qu'il peut y avoir des négociations ?
Non seulement je pense qu'une opération est en train de se préparer, mais ça a été annoncé à plusieurs reprises, donc il n'y a pas de raison que cette opération ne soit pas préparée. Je pense même qu'elle est déjà préparée depuis quelque temps.
Ensuite, alors comment ça va se passer ? Comment ça se passerait ?
Alors justement, vous l'avez un peu, vous l'avez largement même développé dans ce que vous avez dit auparavant, les uns et les autres. Tout dépend de la décision qui sera prise par le gouvernement et tout dépend du choix qui est demandé. Et les choix sont évidemment différents. Si la solution est de se reporter sur l'actuel aéroport. Il est évident qu'ensuite le maintien sur les lieux manquera de crédibilité déjà, les choses peuvent se faire de manière plus négociée, en particulier et plus spécialement pour les membres les moins radicalisés qui sont maintenant dans la zone, quoi. Alors, voilà.
Alors, en tant qu'ancien chef du RAID, question, dans ces cas-là, indépendamment de la situation locale maintenant et de ce qui va se passer, combien d'hommes faut-il, combien de temps, quelle stratégie, quel risque pour ce genre d'opération quand il s'agit de déloger des gens, quelques centaines de personnes, en fait, sur une grande superficie qui ne voudraient pas partir?
Alors, la difficulté, c'est effectivement la superficie, c'est le fait qu'on n'est pas en secteur urbain, et que on peut se cacher un peu partout, on peut mettre des obstacles, on peut avoir de la résistance en se déplaçant assez rapidement. Donc effectivement sur ce secteur-là, il faut des effectifs et les effectifs qui sont utilisés, ce sont des effectifs spécialisés dans le maintien de l'ordre, d'un côté, du côté de la police, les CRS, du côté de la gendarmerie, les gendarmes mobiles, qui font à peu près le même boulot, qui font même le même boulot. Et donc, avec des gens qui sont très bien formés pour ça, qui sont mobiles, et qui vont à la fois, pour certains, tenir les points, pour d'autres, empêcher des renforts extérieurs, et pour les troisièmes, évacuer petit à petit ou plus rapidement, si c'est faisable, cette zone, avec des moyens employés qui garantiront le fait de on n'est pas en guerre, hein, un maintien d'ordre, c'est un rétablissement de la paix publique avec les moyens qu'il faut, mais de manière à être le moins brutal possible. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Marc Fauvergue d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour parler de cette évacuation probable, en tout cas possible maintenant, du site de Notre-Dame-des-Landes. On attend encore la décision du gouvernement. Il y a un autre projet d'aménagement dont on parle beaucoup, c'est le Grand Paris. Rapport publié ce matin par la Cour des comptes qui dresse un constat assez alarmant sur le coût de ce qu'on appelle le Grand Paris Express. C'est le nouveau réseau de lignes de métro automatique qui vise à désengorger le réseau actuel, à relier aussi entre eux les départements de la proche couronne parisienne, et la Cour donc pointe la dérive continuelle des coûts. Elle évoque de sérieux doutes sur le respect des échéances olympiques 2024 et elle souligne aussi le risque pour les finances publiques à court et moyen terme, Sophie Delbon.
Oui, une dérive qui atteint la somme abyssale de 13 milliards d'euros supplémentaires par rapport au budget initial du Grand Paris Express. Une dérive qui aura de lourdes conséquences, notamment sur le déficit public et avec un accroissement de la dette française selon la Cour des comptes. C'est la société du Grand Paris, SGP, qui gère ce chantier pharaonique, le plus grand chantier d'Europe, avec la construction de ce super métro qui comprend 200 km de voies supplémentaires et 68 nouvelles gares. Difficulté aussi par rapport à la visibilité sur le financement, car le chantier sera payé par des taxes et par un emprunt dont l'État se porterait garant.
Sophie Delpont, à l'origine, il faut rappeler quand même, donc en 2010, que ce chantier avait été évalué à 10 milliards d'euros.
19 milliards d'euros seulement, pourrait-on dire aujourd'hui, car le coût a doublé depuis. On frôle désormais les 40 milliards d'euros, selon l'estimation de la SGP en juillet dernier. Le projet d'aujourd'hui est pourtant exactement le même que celui imaginé en 2010. Il comprend la construction de 4 nouvelles lignes de métro, les lignes 15, 16, 17 et 18, et aussi le prolongement du RER E, ainsi que celui de l'actuelle ligne 14 automatique au nord, ainsi que le coût des interconnexions entre toutes les lignes. Un surcoût considérable dans un contexte de tentative pour baisser les dépenses publiques et qui aura un impact sur la loi de programmation des finances publiques calibrée de 2018 à 2022, souligne la Cour des comptes. Alors qu'en toile de fond et en parallèle, effectivement, un autre chantier se profile, celui des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Sophie Delpont, merci. Pendant ce temps, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, déclare ce matin dans une interview au journal Les Échos qu'elle veut favoriser l'apparition en France de péages urbains, donc à l'entrée des grandes métropoles. C'est l'une des pistes de réflexion qui pourrait se concrétiser dans le futur projet de loi sur les mobilités, c'est son nom, qui est prévu pour le printemps. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors voilà donc des péages, perspectives de péages pour entrer dans les grandes villes. Où, quand, comment ça va se passer?
Alors ce système qui existe déjà à Milan et à Londres a pour objectif, selon la ministre des Transports, de favoriser les comportements vertueux. Concrètement, Elisabeth Borne souhaite instaurer les automobilistes et les inciter à utiliser des moyens de transport propres comme le covoiturage ou encore les transports en commun, mais aussi à acheter des véhicules propres type hybride électrique. Faut-il en avoir les moyens? Elle compte s'appuyer notamment sur l'exemple lillois, puisque la métropole envisage d'instaurer prochainement un système de bonus pour les automobilistes qui accepteraient de ne pas utiliser leur véhicule pour se rendre à leur travail pendant les heures de pointe. Pour mettre en place ces mesures, elle compte sur les régions, ce sont elles qui devront coordonner l'ensemble. À commencer par la mise en place de voies dédiées au covoiturage, mais le ministère va également leur demander d'avoir une meilleure information avec par exemple la mise en place d'une application qui regroupera l'ensemble des moyens de transport existants allant de l'autopartage au TER, un système qui existe déjà en Bretagne avec la carte Corrigan que connaissent sans doute nos auditeurs bretons. Enfin, la ministre envisage également d'instaurer une vignette pour les poids lourds. Cela devra remplacer l'écotaxe, qui n'avait jamais existé, on s'en souvient, et ce qui devrait rapporter 550 millions d'euros par an à l'État.
Alors depuis le début de ce journal, Hakim, on le remarque, on parle de grands projets d'aménagement, on parle de mobilité. Est-ce que finalement on peut voir une ligne directrice cohérente dans ces différents projets, décisions du gouvernement ?
Oui, au-delà du simple effet d'annonce, pour tester l'opinion publique et les partis concernés par ces mesures, arme classique en politique, difficile dans ce tempo médiatique de ne pas voir de la part de l'exécutif une main tendue aux écologistes, mais aussi au ministre Nicolas Hulot. Car entre la décision imminente, vous l'avez dit, sur Notre-Dame-des-Landes, qui dans les deux cas sera difficile, et l'instauration de péages, Emmanuel Macron et Édouard Philippe cherchent aussi à renforcer la position de Nicolas Hulot, très fragilisé ces derniers mois, notamment sur la question du nucléaire et des centrales. Cela suffira-t-il à maintenir Nicolas Hulot au gouvernement que l'on se partant ? Cela on le verra dans les prochains mois, voire les prochains jours.
Hakim Kasmi, merci beaucoup. Midi 47, le Parlement de Catalogne qui siège pour la première fois depuis ce matin et la première fois depuis le vote de cette fameuse déclaration d'indépendance unilatérale. La Chambre régionale où les indépendantistes donc ont obtenu une nouvelle majorité de 70 sièges sur 135 lors des dernières élections, c'était le 21 décembre dernier, tient cette première session en l'absence de 8 élus séparatistes en prison ou à Bruxelles. Donc Carles Puigdemont, pressenti pourtant pour le poste de président régional, et hier soir il y a les deux principales liste séparatiste, celle du président destitué donc, et celle de la gauche républicaine de Catalogne, qui annonçait avoir trouvé un accord pour l'investir malgré tout. Marie-Pierre Véraud, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à leur but ?
La question sera surtout de voir s'ils vont vraiment le faire, nous y reviendrons. Pour l'heure, les députés viennent de choisir leur président, c'est le jeune député indépendantiste de la gauche républicaine catalane, Roger Torrent, 38 ans, qui présidera la Chambre. Applaudi par ses pairs, il arbore le ruban jaune, symbole pour les indépendantistes de ceux qu'ils considèrent comme des prisonniers politiques, les trois élus incarcérés par Madrid. En ce moment, les députés élisent le bureau du Parlement. C'est lui seul qui sera habilité à définir les règles d'investiture des candidats à la présidence de la Catalogne. Bureau qui devrait être dominé par les indépendantistes, fort de leur majorité. Même si les cinq élus en exil à Bruxelles ne participent pas au vote, ils l'ont précisé, les trois élus incarcérés ont eux le droit de déléguer leur vote. La justice espagnole leur a accordé, estimant qu'elle n'a pas à interférer sur l'arithmétique parlementaire. Alors que va-t-il se passer à présent ? Le président du Parlement dispose de 2 semaines, 10 jours ouvrables, pour consulter les différents groupes et convoquer le débat d'investiture du président de la Catalogne, qui est donc prévu à la fin du mois de janvier. C'est là que l'on saura véritablement si le Parlement entame une nouvelle épreuve de force avec Madrid. Les indépendantistes de la gauche républicaine catalane et d'Ensemble pour la Catalogne, la liste que conduisait Carles Puigdemont, ont en effet convenu hier soir que ce serait lui leur candidat, un candidat naturel puisque sa liste a remporté 34 sièges, de plus que le second parti indépendantiste. Mais l'exil de Puigdemont complique la donne. Madrid, on le sait, n'acceptera pas qu'il soit investi à distance. Et si Puigdemont devait être élu, la mise sous tutelle de la Catalogne serait maintenue. Il n'est donc pas impossible que l'accord intervenu hier soir entre formations indépendantistes ne vise pour la gauche catalane qu'à montrer sa bonne volonté envers Puigdemont et qu'à terme, pour éviter un nouveau bras de fer judiciaire avec Madrid, pour éviter un blocage institutionnel, un nouveau candidat soit choisi. Les débats vont se focaliser en attendant sur la possibilité d'une investiture et d'une présidence à distance, comme le souhaite Puigdemont, ce qui divise jusqu'aux indépendantistes.
Marie-Pierre Véraud, merci bien. 2 jours avant l'ouverture des états généraux de la bioéthique, un collectif de 110 personnalités, il y a parmi elles des intellectuels comme Pierre Rosanvallon ou Elisabeth Badinter, réclame, dans une tribune qui a été publiée, mise sur le site en tout cas du Monde, une réforme des lois de bioéthique sur le point précis de la gestation pour autrui. Il va y avoir des états généraux donc de cette bioéthique. C'est une concertation nationale des citoyens, d'experts aussi, des débats qui sont prévus pour durer jusqu'au 7 juillet, qui vont nourrir donc ce projet de loi attendu pour l'automne. Et on se souvient que Emmanuel Macron s'est toujours dit opposé à la législation de la GPA. Mélanie Juvet, donc que disent précisément ces signataires de cette tribune pour une révision des lois sur la gestation pour autrui ?
On ne peut pas ignorer les enfants nés par GPA. Le titre de la tribune donne le ton général de leur requête, signée entre autres par la sociologue Irène Théry ou la comédienne Muriel Robin. Des signataires qui ne demandent pas explicitement la légalisation de la GPA, mais l'ouverture d'un débat serein, argumenté et informé. Leur principale revendication, défendre juridiquement les droits des enfants nés par GPA à l'étranger. Et cela passe par une reconnaissance complète de la filiation, estime la sociologue Irène Théry.
Quand il s'agit de la GPA, ça ne se passe pas. Longtemps, on a refusé toute transcription. Et récemment, la Cour de cassation a dit « Nous acceptons uniquement la transcription de la filiation paternelle, parce qu'elle est aussi biologique. » Les signataires disent « Nous refusons cette discrimination à l'égard de la mère d'intention. » Et donc, nous demandons la transcription intégrale de la filiation telle qu'elle est établie à l'étranger et qu'elle soit transcrite à l'état civil français.
Parmi les arguments brandis dans la tribune, ce sondage IFOP de juin 2017 pour l'Association des familles homoparentales qui pose en substance à la question « Doit-on accorder aux enfants nés à l'étranger par mère porteuse les mêmes droits que les autres enfants nés de parents français ?» Réponse « Oui » à 71%. Cela dit, les signataires veulent aussi lutter contre les dérives de la GPA, la marchandisation du corps de la femme. Il faut, selon eux, établir une convention internationale à l'image de celle de la Haye qui encadre l'adoption internationale et lutte contre les trafics d'enfants. Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, l'a affirmé ce matin chez nos confrères de France Inter. La légalisation de la GPA n'est pas à l'ordre du jour. Vous l'avez rappelé, Antoine-Emmanuel Macron s'y est clairement opposé. Les signataires en sont conscients, mais pensent en revanche que l'heure d'ouvrir le débat a sonné.
Mélanie Juvet, merci beaucoup à propos de Notre-Dame-des-Landes. Première indication, le président du syndicat mixte aéroportuaire affirme que ce projet donc d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est bien abandonné par le gouvernement. Ce sont les autorités locales donc qui l'affirment pour l'instant, mais sans doute il y aura une confirmation dans quelques minutes de la part du Premier ministre. C'est donc conforme à ce que nous vous disions au début de cette édition. Un dernier sujet pour évoquer ce qui se passe en ce moment au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque le CSA est réuni et doit se prononcer sur le sort de Mathieu Gallet à la tête de Radio France. Nous sommes deux jours après cette condamnation de Monsieur Gallet à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour favoritisme quand il dirigeait l'INA. Éric Chavroux, pour son avocat, Monsieur Gallet n'a aucune raison de démissionner.
Oui, au lendemain de la forte condamnation politique du ministère de la Culture qui serait appuyée par Matignon et l'Élysée, Mathieu Gallet résiste. Il n'a pas pensé une seconde démissionner, affirme un de ses avocats, car selon maître Christophe Ingrin, il a fait appel et il n'y a donc pas encore de condamnation définitive au regard du droit. Le président du CSA, Olivier Schrammeck, fin juriste, pourrait d'ailleurs faire valoir cet argument, considère plusieurs sources. L'avocat du PDG de Radio France ne manque pas de le souligner, arguant d'autres points de droit.
Ce que le CSA doit prendre en compte, c'est le fait que Mathieu Gallet est toujours présumé innocent, naturellement, que la condamnation et le jugement qui a été rendu lundi est extrêmement fragile. Il est fondé sur un texte de loi qui a été abrogé à l'ordonnance de 2005. Il est fondé sur un délit dont la constitutionnalité est très discutée, et le Conseil constitutionnel aura l'occasion de se prononcer dessus. Le tribunal de Créteil n'a pas une grande habitude de la technicité de ce type de contentieux, à la différence de la Cour d'appel de Paris qui va l'examiner dans quelques mois. Donc, se prononcer sur le fondement d'une décision qui, dans 6 à 8 mois, a de fortes chances d'être infirmée, prendre une décision aussi lourde que celle qui lui est demandée par la ministre, sur le fondement d'une décision aussi fragile, ça me semble très délicat.
Le CSA est donc dans une position inédite, particulièrement délicate, pour décider du sort de celui qui l'avait élu à l'unanimité. La loi de novembre 2013 à sa disposition établit qu'il peut démettre par un avis motivé un responsable de l'audiovisuel public à la majorité des voix. Mais ce texte ne précise pas les contours. Autorité indépendante, le CSA doit aussi se faire respecter après l'intervention de la rue de Valois, quand les syndicats de Radio France enfin se sont inquiétés hier soir, dans un communiqué, de la fragilisation du groupe au début d'une vaste réforme de l'audiovisuel public, syndicats qui n'ont pas réclamé dans ce communiqué le départ de leur PDG. Quel que soit le sort de Mathieu Gallet, ce que beaucoup considèrent comme un éclatement programmé de tout le secteur est enclenché pour cette année, avec aussi justement des interrogations sur l'avenir du CSA.
Éric Chavroux, merci beaucoup. Selon le bilan du Bureau de recherche géologique et minière, environ deux tiers des nappes phréatiques présenteraient un niveau modérément bas à très bas, situation de basses eaux qui se prolonge jusqu'en fin de l'année, qui n'est pas du tout habituelle et qui traduit l'absence d'incidence notable des premières pluies automnales. Tout ça pour vous faire mieux, vous aider à mieux supporter la météo du jour avec cette nouvelle perturbation faiblement pluvieuse qui traverse le pays, qui se décale donc vers l'est au cours de la journée sur les Alpes Alpes-Maritimes, le Var et la Corse. Vigilance orange, vent violent jusqu'à 16h. Température 6 à 15 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.